Voilà, c'est une joie pour moi, pour nous, pour la famille d'être ici de nouveau. J'aime bien faire un passage au moins deux, trois fois par an. On a l'occasion d'y venir aussi pour la conférence d'hommes qu'on a fait en juin dernier, juin de l'année d'avant. Et c'est un vrai privilège de pouvoir partager ces temps ensemble. On pense à l'église Saint-Lazare qui se réunit en ce moment, dont je suis le pasteur. Et puis on pense aussi à toutes les églises dans Paris et en France qui se réunissent. Et puis peut-être une petite pensée particulière pour effectivement les églises de l'association Baptiste dont nous faisons partie. C'est le dimanche de l'association aujourd'hui et nous nous réjouissons de voir un réseau d'églises que le Seigneur rassemble et place sur le territoire de France et aussi de Belgique et de Suisse romande pour l'avancement de son règne. C'est un vrai privilège pour moi d'être là. Je dois vous saluer de la part de Gérard et Michel Vaité, pour ceux qui les connaissent, qui les ont croisés, qui étaient ici il y a maintenant plus de 15 ans. Salutations fraternelles de leur part. Et je me réjouis tout à l'heure de donner plus de nouvelles concernant l'église Saint-Lazare. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 18. Et à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Matthieu 18, verset 12 jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de télécommande ou quoi que ce soit, il faut juste faire un signe, c'est ça? Ah, il y a une télécommande, parfait. Simplement, à travers l'écriture, vous distinguez souvent, sans doute la façade bien connue, que vous connaissez sans doute bien. C'est Google Street qui m'a donné ça, d'après que vous êtes célèbre. Et j'ai vu une petite annonce dans cette... sur cette feuille ici, comme quoi il fallait faire attention de bien référencer l'église sur Google, donc aller faire un tour, parler de l'église du Tabernacle, comme ça les gens, quand les gens cherchent une église dans le 18e, eh bien ils tomberont naturellement sur cette photo et plus encore sur ces bâtiments et plus encore, on le prie, sur la rencontre avec le Seigneur Jésus. On est heureux de voir comment, à travers les décennies, le Seigneur fait son œuvre. Le Seigneur construit son Église. Et on veut se rappeler aujourd'hui que ce qui compte, c'est imaginer. Imaginer qu'un jour, la totalité de ce bâtiment soit démantelée. Qu'il ne reste plus une brique sur brique. Comme, par exemple, dans le quartier de mon ami Joe, qui collabore avec moi à l'église Saint-Lazare, qui a vu... dans son quartier, l'explosion au gaz, il y a quelques semaines, et là, des bâtiments dans lesquels on ne peut plus rentrer. Imaginez que ça se passe pour ces bâtiments-là, qu'il n'y ait plus du tout la possibilité de se rencontrer ici. Est-ce que l'église du Tabernacle disparaîtrait ou serait encore présente? En fait, l'église du Tabernacle existerait encore, puisque c'est l'ensemble des hommes et des femmes que Dieu a appelés dans son royaume sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. Et donc ce serait triste, ce serait dommage, peut-être dommageable d'une certaine manière, mais pas grave à la vue de ce que Dieu est en train de faire depuis le sacrifice de son Fils, sa résurrection et sa session à sa droite, maintenant qu'il est assis à sa droite. On est tellement réjouis de ça. L'Église est toujours bâtie par Christ, à la manière de Christ et pour la gloire de Christ. Et le contexte du texte dans lequel on va se plonger aujourd'hui, c'est exactement cette affirmation de Jésus. On est au chapitre 18, mais au verset 16, si vous revenez un peu en arrière, regardez ce que Jésus vient de dire en rapport avec sa communauté, son église, son peuple. Au chapitre 16, si vous revenez en arrière, et puis au verset 16, voilà ce que le Seigneur dit. Simon déclare que Jésus reconnaît qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et le Seigneur Jésus dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, dit Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur cette affirmation de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas notre Église, ce n'est pas mon Église, ce n'est pas l'Église de Jean-Paul ou de Karim ou de qui que ce soit d'autre, c'est l'Église de Jésus. Et Jésus promet qu'il bâtira son église. Et ça, c'est le contexte dans lequel se trouve le texte d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste important de savoir que Jésus bâtira son église, c'est important de savoir comment Jésus bâtira son église. Et dans cette partie de l'évangile de Matthieu, Jésus pose le gabarit. Alors, on ne voit pas ça beaucoup dans notre région. Moi, je viens d'une région où ça se voit un peu plus. Des gabarits, c'est des espèces de piquets comme ça qu'on plante en terre afin de montrer le profil qu'aura à la fin le bâtiment qui est envisagé. Alors, on pose, comme ça, on voit la hauteur, on voit ce que ça prendra dans le paysage, on voit l'inclinaison du toit. Ça donne un aperçu, une esquisse claire. Et il est possible que là, si vous voulez reprendre l'image, Jésus pose le gabarit, le motif sur lequel devra se construire son église. Il est nécessaire, là qu'on se plonge maintenant dans le texte, je vous invite à lire ce texte et à voir à quoi ressemble l'église lorsque Jésus l'a bâtie. Je vais prier et on va lire ce texte de Matthieu 18, 12 et suivant. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces temps que nous pouvons passer ensemble, dans la présence les uns des autres et dans ta présence. Nous te remercions parce que ta parole est la vérité et nous te louons parce que par elle, tu vas faire ton œuvre, parce qu'elle ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'avais envoyée. Nous te prions, Seigneur, que dans ta grâce et par la puissance du Saint-Esprit, dans ce moment ensemble, Christ soit exalté, que le pécheur soit humilié et que la vie sainte soit promue pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble, je lirai dans la version à la colombe. Matthieu 18, verset 12, Jésus dit « Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la trouver? En vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés.
et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Jusqu'ici, notre lecture de la parole, et nous prions que sa méditation nous conduise à l'adoration plus grande de Jésus, à l'humiliation plus grande du pécheur que nous sommes, et à une vie sainte encore plus grande dans nos vies, par l'effet de la grâce. Voilà des vieilles images, alors peut-être que la moitié de l'Église ne pourrait pas reconnaître cette image. C'est la victoire, pas celle de cette année, de l'année dernière, mais la victoire de 98, la première, vous savez, parce qu'il a fallu une première fois. Et en fait, au moment même de la victoire, au moment même où l'équipe de France, pour la première fois, était sur le toit du monde, au moment du mondial football, après avoir été vilipendé par beaucoup de journalistes et traîné dans la boue, Aimé Jacquet, l'entraîneur, le coach de l'époque de l'équipe de France, était sur le toit du monde. Et les journalistes, sur la pelouse, lui ont demandé « Qu'est-ce que vous faites maintenant avec les personnes qui vous ont comme ça traîné dans la boue ?» Et la phrase très connue d'Aimé Jacquet, c'était « Je ne leur pardonnerai jamais, virgule, jamais. » Alors, on pourrait être choqué par cela, on pourrait comprendre, mais on va voir comment peut-être que, d'une manière ou d'une autre, Aimé Jacquet est de la même nature que nous. Voilà comment il a construit sa victoire, peut-être sur une revanche ou sur une volonté de revanche, et il a réussi. Mais rappelons-nous que notre Seigneur, lui, au lieu de dire au nom du Père, « Je jugerai tous ceux qui sont révoltés contre moi, tous ceux qui sont révoltés contre le Père », il a fait le contraire. Il est venu, et on l'a chanté avant, il a été encouragé par Karim, il est venu dans le but de servir, non pas d'être servi, mais de servir pour donner sa vie pour beaucoup. Et c'est comme cela qu'il bâtit sa victoire, et c'est sur cette base de la croix qu'il bâtit son Église. Et ça, les amis, ça a de l'influence sur nous, ça, c'est la base de notre manière d'être dans l'Église, qui est l'Église de Jésus-Christ. Et s'il fallait résumer le texte qu'on vient de lire en deux parties, je dirais que la première partie, du verset 15 jusqu'au verset 20, ce serait « Comme le Père, apprenons à lutter sans merci contre le péché. » Et puis du verset 21 et à la suite, qui est lié à ce que je viens de dire, ce qu'on vient de voir, « Comme le Père, faisons grâce sans limite aux pécheurs. » Alors pourquoi je vous propose de voir cet aspect-là, de comme le Père ? Je pense que la parabole si connue de la brebis garée que Jésus raconte juste avant livre à ceux qui l'écoutent le cœur du Père, le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu envoie son Fils ? Quelle est l'attitude du Père par rapport à ceux qui se perdent ? Et Jésus l'applique à la communauté. Il raconte l'histoire de ce berger qui, comme le père, et qui, au lieu de prendre juste soin des 99 autres, s'enquiert et va chercher celle qui s'était perdue avec le verset 14. Regardez le verset 14 avec moi. Jésus explique la leçon. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Autrement dit, tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu, si vous voulez, de l'Église, sont si chers aux yeux du Père qu'il est déterminé à ce qu'aucun ne se perde. Les petits dont il est question ici, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Et cette détermination, on la voit dans toutes les instructions qui suivent. Alors, regardons d'abord le début. Comment ça nous implique, nous ? Sur la base du cœur du Père. Arrêtons-nous sur les premiers versets. Comme le Père, luttons sans merci contre le péché. Alors, on a une procédure qui est souvent assez connue dans nos églises. À partir du verset 15, le Seigneur explique ce qu'on devrait faire lorsqu'on trouve un frère, ou bien sûr une sœur, en train de pécher, en train de commettre le mal contre Dieu et contre autrui. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Très intéressant ce commentaire. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Très intéressant, d'autant plus que quand on vient d'entendre Jésus qui dit « Ce n'est pas la volonté du Père qu'aucun ne se perde », ça nous indique la raison pour laquelle nous devrions aller voir ceux qui, au milieu de nous, sont en situation de péché. Je suis triste de voir que bien souvent dans nos églises, et j'ai été concerné pendant une période, les personnes qu'on trouve en train de pécher, qu'on veut reprendre dans ce type de procédure, on considère cette procédure comme une procédure d'exclusion. Il a péché, on va le reprendre. Il s'endurcit, on va le voir à plusieurs. Il s'endurcit, on le dit à l'église. Il s'endurcit encore, on devrait le traiter comme un péagé et un pécheur. Et d'après le contexte, on ne devrait pas lire ces quelques versets, 15 et suivants, comme une procédure d'exclusion, mais comme une procédure de sauvegarde. Parce que ce n'est pas la volonté du Père qu'aucun ne se perde, nous devrions prendre beaucoup de soins, un soin attentif, à faire en sorte que les frères et sœurs dans l'Église, qui font partie du corps de Jésus-Christ, ne se perdent pas. Une procédure de sauvegarde. Pourquoi est-ce que c'est important ? Simplement, Jésus le dit après, et on voit à quel point c'est important, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette lutte-là, dans ce soin précis des frères qui se perdent dans le mal et dans le péché. Et Jésus le dit au verset 18, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, ne croyez pas que ce que vous vivez lorsque vous luttez ensemble contre un péché et que vous faites tout en tant qu'individu et en tant que communauté pour ramener celui qui s'était perdu. Ne croyez pas que c'est juste horizontal. Ne croyez pas que c'est juste pragmatique, parce que c'est quand même mieux si quelqu'un ne pêche pas. Il se passe quelque chose dans le ciel lorsque nous agissons comme cela sur la terre. Les choses que nous délions sur la terre, le péché que nous pardonnons est considéré de par Dieu comme quelque chose qui est pardonné sur la base de Jésus-Christ et de son sacrifice dans le ciel pour l'éternité. L'enjeu est beau, l'enjeu est glorieux, l'enjeu est éternel. Quand bien même on aurait l'impression qu'on vit quelque chose de très discret, en particulier pour ce qui concerne le verset 15, il s'agit d'aller voir seul à seul son frère. Et on a une promesse. On a une promesse qui suit. Jésus dit que si deux s'accordent, ou si plus tard deux ou trois s'accordent dans le nom de Jésus pour demander quelque chose au Père, il lui sera accordé. Et alors on pourrait parler longtemps de ce passage, mais dans le contexte, on voit très bien que Jésus l'applique à la question de la lutte contre le péché, à la lutte sans merci contre le péché. Et il est en train de promettre que même si un péché est gigantesque, même si un péché est choquant, même si c'est un péché, on va le voir, qui pourrait nous avoir touchés de près, lorsque deux personnes s'accordent dans le corps de Christ pour demander pardon, le pardon leur est accordé. Parce que le Père est bon et parce que Jésus bâtit son Église. La croix de Jésus-Christ est au centre de la construction. Ça veut dire que la lutte contre le péché est centrale pour le Père. Elle est cruciale, si vous voulez me permettre le jeu de mots. Elle a la croix au centre. La preuve, c'est la croix. La lutte contre le péché, ce n'est pas dans le corps de Christ une option. Ce n'est pas OK de laisser le péché faire son œuvre dans le corps de Christ. Et la croix en est la preuve. C'est le péché qui appelait le jugement de Dieu contre moi, sans que je puisse discuter. C'est le péché qui a coûté la vie du Seigneur Jésus. C'est le péché qui abîme ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même et surtout ma relation avec les frères et sœurs. Dieu a donné son Fils pour que le péché soit vaincu et pour la relation entre son peuple et lui soit restaurée. Et Dieu a donné son Fils pour que cette réconciliation et cette lutte contre le péché soient vécues quotidiennement par des hommes et des femmes qui ont compris que la croix est centrale. Alors on continue à faire le parallèle avec l'église du tabernacle. À la suite de Jésus-Christ, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes heureux d'entrer dans la construction de l'église de Jésus-Christ. Toujours intéressant de se souvenir que dans le contexte, au chapitre 16, qui est toujours le contexte de ce texte, Jésus a dit « Je bâtirai mon église ».« Je », c'est Jésus. « Bâtirai », c'est rassurant, il construit. « Mon », c'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. « Église », c'est pas mon royaume, c'est le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous sommes positivement invités à ce que la fierté de notre communauté, l'ADN et la culture centrale de notre Église soient l'expression du cœur du Père, l'expression du cœur du Fils qui s'est donné, qui soit vécu de manière à non seulement manifester la victoire de Jésus sur le mal, mais en plus de rendre témoignage de la victoire de Jésus sur le mal au milieu de Paris. Il y a beaucoup de situations de péché qu'on pourrait énumérer, et je trouve que c'est utile quand même de revenir quelques pages en arrière. Vous pouvez revenir au chapitre 15 avec moi, chapitre 15, et où Jésus, face aux pharisiens qui visiblement étaient des responsables religieux qui avaient du mal à voir à quel point ils étaient touchés et gangrénés par le mal, précise à la fin, en particulier à ses disciples, les types de choses qui sortent de notre cœur. Le Seigneur dit au verset 18 du chapitre 15, « Ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. » C'est verset 19 du chapitre 15, « C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes, voilà ce qui souille l'homme, dit le Seigneur. » Cela veut dire que nous avons un champ de bataille là, et que lorsque ce genre de choses ressortent dans nos vies, on ne devrait pas être surpris. On pourrait être attristé, on pourrait être choqué, mais on ne devrait pas être surpris, puisque c'est pour ces péchés que le Seigneur est mort. Et c'est parce que ces péchés sont tenaces et que nous ne pouvons pas nous-mêmes les enlever qu'il nous invite à lutter avec la croix au centre. Alors essayons de voir en quoi cette procédure de sauvegarde, puisque ce n'est pas une procédure d'exclusion, c'est que nous faisons tout pour sauver les frères qui pêchent, qui se perdent dans le mal parmi nous. À quoi ça correspond? Par exemple, le verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. » On est souvent enclin dans des situations de péché à prendre notre téléphone et à appeler un autre frère pour lui dire « tu sais pas ce qu'il a fait ?» ou à prendre un café avec trois autres personnes en disant « tu sais pas ce qu'il a fait ?» Ce que le Seigneur est en train de dire là, c'est que le coup de fil ou le café, c'est avec la personne concernée par le mal qu'il faudrait le prendre. C'est tout simple. Mais ça change beaucoup de choses. Et c'est une attitude qui est obéissante et confiante vis-à-vis du texte qu'on est en train de méditer ensemble. Concrètement, ça veut dire que ça nourrit notre attitude. Je ne vais pas voir mon frère qui a péché, qui se perd dans le mal, quel qu'il soit, pour lui taper sur les doigts. J'y vais avec le cœur du Père qui ne veut pas qu'aucun se perde. Et ça vaut le coup de le dire. Moi, je trouve que c'est utile, lorsque ce genre de situation se passe, de dire, si je veux prendre le temps avec toi, c'est parce que je t'aime, et c'est parce que moi, je voudrais pas que tu te perdes et que tu te détruises dans ce mal-là. Et j'aimerais juste qu'on en discute, et je suis pas là pour te juger, je suis là pour combattre avec toi, tout simplement parce qu'on a la promesse que si tu écoutes, alors tu seras de nouveau gagné dans le troupeau. S'il t'écoute, dit le Seigneur, tu as gagné ton frère. La procédure qui suit devrait suivre le même principe de sauvegarde, non pas de jugement, mais d'exercice de la vérité concernant le mal dans le but de sauver quelqu'un. Ça change beaucoup de choses dans l'ambiance générale, parce qu'ensemble, on est fiers de lutter sans merci contre le péché. Le but, c'est de sauver mon frère. Je vais tenter une petite suggestion audacieuse. Je ne pense pas que le Seigneur suggère ici que le verset 15 concernerait une seule fois et ensuite on devrait passer à la procédure suivante, à l'étape suivante de la procédure. Si on veut répéter le moment du café ou le coup de fil ou le temps de marche dans un parc de Paris pour discuter plus profondément, on devrait le faire. Tout simplement parce que le but, c'est que nous nous investissons contre le mal. Et on devrait le faire avec foi, avec confiance. Le Seigneur promet que la victoire sera là. Le Seigneur promet que réellement, ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Il y a la promesse du tableau blanc. Ça nous concerne vraiment dans le corps de l'Église. Parce que souvent et naturellement, et je m'inclus, on est si souvent tourné sur notre nombril, sur nous-mêmes, sur notre confort, sur nos préoccupations. Et le Seigneur est en train de nous dire, préoccupez-vous les uns des autres. Manifestez votre amour les uns envers les autres en luttant ensemble et en ayant la promesse du pardon ensemble. Le Seigneur dit à chaque fois dans la procédure, s'il ne t'écoute pas, va prendre deux personnes. S'il refuse de t'écouter, verset 17, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter, traite-le comme un péager et un pécheur. Même dans le déroulement de cette procédure, nous sommes invités à nous attrister de la logique du cœur qui s'endurcit. S'il ne t'écoute pas, s'il ne t'écoute pas, s'il ne t'écoute pas, au lieu de se fâcher, on devrait s'attrister. Parce que ça veut dire qu'à un endroit ou à un autre, la personne concernée n'a pas encore bien compris l'Évangile, n'a pas encore bien compris la valeur du sacrifice de Jésus pour lui. Et a besoin, au cas échéant, si jamais on est au bout de la procédure, d'être comment Jésus était avec les païens, c'est-à-dire les non-juifs, comment est-ce que Jésus était avec les péagers, c'est-à-dire les pécheurs notoires. Il les fréquentait, il mangeait avec eux, il leur proclamait l'Évangile. Alors c'est ce qu'on devrait faire. Si quelqu'un s'est endurci au point de ne rien changer en disant « Ok, mais bon, pour moi ça ne change rien, je continue mon attitude de colère, d'endurcissement, d'adultère, de vol, de médisance », on devrait se dire, au lieu de dire « je ne te verrai plus », voilà quelqu'un que j'aime et qui a besoin d'être réévangélisé comme quelqu'un qui n'a plus ou pas compris l'Évangile de grâce. Vous me direz, tout ça c'est bien beau, mais si c'est moi qui suis l'offensé, si c'est le péché en général, c'est bon, ok, on peut s'y mettre, mais si je suis concerné par le mal qui a été commis, si je suis la victime. Et c'est exactement la préoccupation de Pierre qui, au verset 21, demande au Seigneur, regardez avec moi le verset 21. Pierre s'approche de Jésus et dit, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jusqu'à sept fois. J'aime Pierre parce qu'il exprime des choses qu'on n'oserait pas dire et il les dit bien. Bien sûr qu'on sait très bien que c'est plus facile de lutter contre le mal et le péché lorsqu'on s'y attelle, lorsqu'il concerne quelqu'un, si tant est que nous ne sommes pas concernés. Mais si en plus nous avons été la victime d'un mal qui a été vraiment commis, on ne parle pas d'un mal qui n'a pas été commis ou je ne suis pas vraiment la victime, mais d'un mal qui objectivement est mal contre nous. Alors Pierre nous invite à le voir et à souligner que c'est quelque chose de difficile. Et lui, il prend sa calculatrice, vous voyez, et puis il dit, est-ce que ça devrait aller jusqu'à sept fois ? Parce que... et puis le Seigneur lui dit non, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors là, ça concerne directement la souffrance d'Aimé Jacquet qui dit « Je ne leur pardonnerai jamais parce que le mal qui a été commis, c'est contre moi. » Et puis ça nous concerne nous tous personnellement. Alors voilà, ça c'est une vieille photo quand j'étais encore jeune. Bien sous tout rapport, très gentil, souriant. Mais derrière, comment je réagis quand j'ai été blessé personnellement? Le Seigneur dit qu'il s'agit, à contrario de la première impression, de ne pas prendre sa calculatrice. Au verset 22, lorsqu'il dit « Je ne te dis pas soit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois », le Seigneur n'est pas en train de dire « Tu prends ta calculatrice, tu arrives à 490, et quand ça fait 7 fois 70, tu peux y aller !» Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire, là. La preuve, c'est que la suite, la parabole qui suit, vise à expliquer la logique. Et on ne devrait pas mettre de petits titres entre les deux, on devrait juste lire « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Et dans cette partie-là, nous ne sommes pas juste invités à lutter sans merci contre le péché, mais aussi, comme le Père, à faire grâce sans limite. On se rappelle la brebis perdue. Elle est perdue. Et le Père a été la chercher alors qu'elle était perdue. Et c'est aussi la grâce qui est concernée au cœur ici. Le verset 23 nous montre, et le Seigneur nous montre, et nous rappelle peut-être un endroit vraiment crucial, qu'il ne s'agit pas de mon royaume, de mes conquêtes, mais qu'il s'agit bel et bien du royaume de Dieu. Et que dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui s'appelle Jésus-Christ. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes dans une situation où nous sommes les sujets du roi. Alors de quoi il s'agit là? On a vite fait de voir le parallèle, surtout avec ce que Jésus précise. Ici, le maître et le grand roi, c'est Dieu lui-même. Ici, le serviteur, et puis ensuite plus tard, les autres serviteurs, qui sont appelés au verset 29, les compagnons, et puis ensuite au verset 31, ses compagnons, et puis ensuite plus tard encore, verset 33, son compagnon, sont les autres sujets du roi, qui sont normalement unis dans le royaume du roi. Et il s'agit là de l'Église, l'Église dont Jésus est le chef. Vous avez noté la compassion extraordinaire du roi vis-à-vis de ce serviteur. Pour la comprendre, ça vaut le coup quand même qu'on prenne un peu notre calculatrice. Alors, c'est un peu artificiel ce que je vais vous proposer de faire, mais ça nous permet de voir ce qui se passe dans la cour du roi ici. La cour où le roi est assis et où il exerce le jugement. Verset 24, cet homme doit 10 000 talents. 10 000 talents, si on change ça en euros d'aujourd'hui, ça fait entre 2 et 3 milliards d'euros. Voilà. Quelqu'un les a? Vous pouvez me dire, on pourra financer des implantations avec cet argent. Personne n'a cet argent. 2 et 3 milliards d'euros. C'est ce que cet homme doit, alors je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est ce que cet homme doit à ce roi. Et puis ensuite, il y a la sentence. Il ne peut pas payer, verset 25. Et du coup, le roi ordonne de le vendre lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait. Alors j'ai fait un petit calcul, une fois artificiel, mais qui nous permet de voir le rapport. Au niveau du cours de l'esclave au 1er siècle, si jamais il avait, disons, 5 fils, et je suis désolé, mesdames, mais les fils étaient des esclaves plus chers que les femmes, si on vend toute sa famille, ça arrive à environ 20 000 euros. Même en le vendant lui-même, regardez le rapport entre 20 000 euros et 2 à 3 milliards d'euros. Voilà ce qui se passe dans ce texte. Et c'est tellement proche de ce que Jésus a déjà dit dans l'évangile de Matthieu. Quiconque, qui donc pourra sauver sa vie. Personne ne peut sauver sa vie. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. C'est ce que Jésus précise juste quelques passages avant et qui montre que, si vous voulez le dire dans les termes de cette parabole, ce n'est pas possible d'acheter ce que nous devons à Dieu. Ce n'est pas possible, quand même on le voudrait, quand même on se vendrait nous-mêmes. On ne peut pas acheter ce que nous devons à Dieu. On ne l'a pas dans les poches. Et puis il y a un moment tellement crucial dans ce texte. Regardez avec moi le verset 26. On le lit ensemble. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Et nous on se dit quoi ? N'importe quoi. Où il va les trouver ces 3 milliards d'euros ? Et regardez le verset suivant. « Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller » et lui remit sa dette. On est au cœur de ce qu'on appelle la grâce. Et s'il fallait repréciser ce que ça veut dire, la grâce, c'est que c'est un cadeau qui est gratuit et qu'on ne mérite pas. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous remettre une dette que nous ne pouvions pas payer, mais qu'il a payée dans le sang précieux de son Fils. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce verset, peut-être que tout le monde ne comprend pas, ce verset qui est là depuis le début du tabernacle, « Gloire à l'agneau immolé », c'est des mots bizarres, mais c'est un mot qui est central dans la Bible, qui rappelle que l'agneau, c'est Jésus, qui est présenté comme une victime que Dieu a lui-même offerte, immolé, sacrifié, pour payer ce que nous ne pouvions pas payer. Voilà ce que le Père a fait pour nous. Lisons la suite. En sortant, le serviteur trouve un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit par la main, lui dit, « Vraiment, je te remets toute ta dette et va en paix, viens, on va boire un coup. » Ah non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois. »
Quand ce genre de situation arrive, ce qui est terrible dans ce texte, c'est qu'on voit que trop bien que ça nous concerne. On devrait être attristé par ce genre de situation. Et c'est ce que les compagnons font. Et c'est ce qui conduit cet homme dont le cœur est dur, à venir et à retourner, à être reconvoqué devant le roi. On trouve normal, je pense, que cet homme soit enfermé, puni, parce qu'il n'a rien compris à ce que le roi avait fait pour lui, et la preuve qu'il n'avait rien compris, c'est qu'il n'a même pas pensé un seul instant à remettre la dette de son compagnon, un autre sujet du royaume, si vous voulez. Mais le vrai choc de ce texte, on l'a au verset 35. On le lit ensemble, verset 35. C'est ainsi, dit Jésus. Donc on n'est plus dans la parabole, là. Jésus tire la leçon de la parabole. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le Seigneur a promis, je bâtirai mon Église. Et là, on est dans le royaume de Dieu. Et on est selon les règles du roi, en suivant Jésus-Christ, le roi. La croix de Jésus-Christ est au centre parce que non seulement elle nous rappelle la gravité du péché, c'est pour ça que nous luttons sans merci contre le péché, elle a coûté sa vie pour qu'on puisse être racheté. Mais la croix de Jésus-Christ est au centre parce que c'est la grâce qui est au centre. La volonté du Père, de Dieu dans l'histoire de l'humanité, ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas ce que nous on est en train de faire.
ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas ce que moi, je suis en train de faire parfois. Mais ce que le Père est en train de faire, c'est d'être déterminé à sauver et à ramener ce qui était perdu, pas parce qu'il le mérite, mais juste parce qu'il veut leur faire grâce, il veut leur pardonner. C'est la grâce que Dieu m'a offerte à la croix. C'est moi qui devais les 3 milliards d'euros. Et que quand bien même on me vendait avec ma famille, désolé, c'était pas plus que 30 000 euros. Entre parenthèses, si on compare ce que cet homme lui devait à ce compagnon-là, à ce serviteur, on arrive à peu près à 3 800 euros. 3 800 euros, alors qu'il devait au roi entre 2 et 3 milliards d'euros. Disproportion totale. La grâce, c'est dans le but de la grâce que Jésus a payé le prix, pour que moi je sois littéralement gracié. C'est par la grâce que Dieu restaure ma relation avec lui, à travers Jésus. Un cadeau gratuit, immérité. Et c'est par la grâce que Dieu veut restaurer, veut que sa gloire paraisse lorsque nous nous faisons grâce les uns aux autres. De la même manière que ce n'est pas une petite chose lorsque nous luttons contre le mal et le péché dans la communauté de Jésus, de la même manière, ce n'est pas une petite chose lorsque nous manifestons la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce que nous faisons lorsque nous le faisons, c'est proclamer la lumière éternelle de sa grâce infinie, de sa gloire. Paul, l'apôtre Paul, parle de la gloire de sa grâce. Et c'est ce que l'Église de Jésus-Christ, dans la France, dans Paris, dans le 18e, proclame au monde. C'est une dette énorme. On revient à la manière de construire nos églises. Alors, on va parler de l'église Saint-Lazare tout à l'heure, il s'agit là de l'église du tabernacle. Le Seigneur nous tient au courant de comment il construit son église. Et du coup, on devrait se souvenir une fois de plus que c'est l'église de Jésus et que du coup, ce n'est pas une option que de se poser les bonnes questions. Comment le cœur de ce que nous vivons, c'est le cœur de ce que nous voulons vivre ensemble. C'est en ligne directe avec le cœur du Fils qui s'est donné pour nous. Et c'est en ligne directe avec le cœur du Père qui a donné le Fils. Dans quel but ? Afin qu'aucun ne se perde. Nous sommes la communauté de la grâce. Nous avons été graciés, lavés, mais dans le but que nous fassions grâce à notre tour. Et ce n'est pas OK lorsque nous retenons le péché. C'est pas « ça m'a fait mal, je serre les dents et j'attends le retour de Jésus ». C'est tellement au cœur de la volonté du Père dans son Église et dans le monde que ça devrait être au cœur et dans mon urgence absolue. Comment est-ce qu'on peut... Alors, le compagnon, là, il a été enfermé jusqu'à ce qu'il paye. Celui qui s'est fait prendre au cou, là. Nous, on ne fait pas ça pour le pardon et pour le mal qui a été commis contre nous. Mais il y a d'autres manières d'enfermer les gens, je pense. J'ai quelques idées, vous en avez sans doute d'autres. Comment est-ce qu'on enferme les personnes quand je laisse du temps passer, je dis « j'ai besoin encore de temps ». Mais j'ai tellement encore besoin de temps que les jours... Et puis les semaines, et puis les mois passent sans que je fasse rien pour offrir ma grâce envers celui qui m'a blessé. Ça, c'est une prison peut-être même pire qu'une prison avec des barreaux. Et j'ai ce pouvoir d'enfermer des personnes dans cette prison-là. Moi le premier. Mais que le Seigneur nous garde de faire cela. C'est une sorte de vengeance en contrepoint, des moments où je pense que je suis le juge et que c'est moi qui enferme les gens. Une autre manière que je pourrais avoir d'enfermer les gens, c'est en coupant les ponts. j'ai été blessé, j'avale ma salive, et puis j'ai plus aucune relation avec la personne qui m'a blessé. Je m'assois ici, et puis il s'assoit là, et puis on est content comme ça. On voit bien comment ça sonne faux en rapport avec le texte qu'on a sous les yeux. C'est juste pas possible de faire ça. Parce que c'est pas juste mon jugement qui s'exerce. C'est un jugement qui s'exerce contre la connaissance de Dieu et de la grâce de Dieu dans l'Église de Dieu. Donc c'est grave. Et c'est pour ça que le verset 35 est un vrai choc. Le Seigneur dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Reste à nous poser la question, pourquoi je calcule? Parce qu'on pourrait avoir, réfléchir sur la question qu'est-ce que ça veut dire, ce compagnon qui devait de l'argent à son autre compagnon. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait, on dit, alors il m'a fait ça, plus, il m'a fait ça, plus, il m'a fait ça, c'est comme ça qu'on calcule, nous. Mais la question, c'est pourquoi je calcule, pourquoi j'enferme en prison du temps ceux qui m'ont fait du mal? Peut-être parce que je me prends pour le roi. Et que quand on me blesse, c'est un crime de lèse-majesté, de lèse-ma-majesté. J'ai oublié que le roi de ma vie, c'était Jésus, et pas moi. Et puis, et ça, c'est très douloureux à dire, surtout dans nos églises évangéliques, mais on est si rapide à parler de l'Évangile qu'on oublie que parfois, on se comporte comme si on n'avait pas compris l'Évangile, comme si on n'avait pas compris la grâce. Et ces genres d'attitudes montrent qu'on n'a pas compris la dette énorme que le Père nous avait remise. Et est-ce qu'on veut des tests pour des moments où on n'a pas compris? Eh bien, ces tests-là, on les a quand on se comporte d'une manière dure les uns envers les autres. On va conclure. Tout est si clair dans ce texte. On peut le relire ce soir à la maison, cet après-midi. Et comme disait un commentateur de la Bible qui s'appelle Gordon Fee, le problème avec la Bible... Et il a fait un livre spécial sur les difficultés ou comment lire la Bible dans toute la force de son message. Et il disait le problème avec la Bible, c'est bien souvent pas la difficulté à comprendre, parce qu'en fait tellement de choses sont limpides dans la Bible. La grosse difficulté dans la Bible, c'est l'obéissance de ce que j'ai trop bien compris. Et ça nous conduit vraiment à nous encourager mutuellement à reconnaître le mal qui est en nous, à nous souvenir que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Et nous voulons voir des disciples grandir dans l'Évangile, dans la grâce. Nous voulons voir des hommes et des femmes du 18e, du 9e, du 8e, du 17e, de tout Paris, de toute la banlieue venir à Christ. Mais cette construction-là et cette conquête-là du royaume ne se fera pas sans Jésus. C'est-à-dire, ne se fera pas sans une lutte sans merci contre le mal, dans le cadre d'une grâce sans limite. Je vous invite à un temps de silence, et peut-être dans ce temps de silence, prière silencieuse, on pourrait garder le verset 14 sous les yeux. Et puis, moi, je conclurai par une prière. Avec le prophète Jérémie, au chapitre 17, nous confessons que, comme le péché de Judas, notre péché est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de nos cœurs. Nous voulons reconnaître avec ce même prophète que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Et nous voulons nous réjouir parce que, Seigneur, tu es celui qui sonde les reins. C'est pourquoi, avec Jérémie, nous voulons te prier. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. Et notre Dieu, notre Père, nous te prions que notre compréhension croissante de l'évangile de Jésus, ton Fils, produise en nous une vie digne de l'évangile, dans notre lutte contre le péché et dans notre volonté de vivre cette lutte dans le cadre de la grâce sans limite. Nous te prions cela dans le nom de Jésus, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Amen.